C'est génial parce qu'à chaque fois que je viens ici, je vois des nouvelles têtes. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je perds la mémoire ou s'il y a vraiment des nouvelles personnes, mais alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Michel. Je suis marié à Sian et j'ai 3 enfants, Bérénice, Baptiste et Victoire. Ils ont 8, 10 et 12 ans, dans le désordre. Et je suis étudiant à l'Institut biblique de Nogent en seconde année, donc avec Franz, que vous connaissez bien, votre stagiaire. Et puis avec Jessica et peut-être bientôt Sylvie, je ne sais pas. Non mais voilà, c'est une boutade parce qu'on l'a vu cette semaine. Alors pour le texte qui nous intéresse ce matin, oui ça marche, c'est génial. Donc ce passage se trouve dans Jean chapitre 8 verset 12. Jésus parla de nouveau en public. « Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Avant de commencer, je vous invite à prier ensemble. Seigneur Dieu, merci pour l'amour que tu nous donnes. Merci parce que tu es celui qui a façonné toutes choses. Merci parce que tu nous as façonné aussi, tu nous connais. Tu nous as façonné à ton image. Merci aussi parce que, oui, tu as un plan pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et Seigneur, ton plan, c'est que nous puissions venir à toi, chacun personnellement, que nous puissions te rencontrer et établir une relation avec toi durable et pour l'éternité. Je te prie vraiment que tu puisses ouvrir nos cœurs à ce message de ce matin, Seigneur, que ce soit toi qui parles. Oui, peut-être que moi, je vais parler aussi, mais je ne suis qu'un instrument, Seigneur, de ta parole. Nous te prions pour que ta parole puissante, ta parole agissante, agisse dans nos cœurs ce matin. Et je te prie en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on a tous besoin de lumière dans la vie. Et c'est quelque chose qui est fondamental. La Bible nous dit d'ailleurs que c'est la première chose qui est apparue dans la création. Sans lumière, malheureusement, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de plantes, ni croissance, ni même de vitamine D qui permet de fixer nos os. Sans lumière, nous ne pouvons pas nous diriger non plus. Sans lumière, nous ne sommes pas rassurés et nous sommes souvent perdus. Sans lumière, on avance, mais on ne voit pas où on va. Et sans Jésus dans notre vie, eh bien nous marchons dans la nuit. Nous marchons dans l'obscurité et les ténèbres. Jésus est la lumière du monde. Il éclaire nos ténèbres. Il révèle Dieu et donne la vie à ceux qui le suivent. Et c'est le cœur de ce que Jésus nous déclare ici dans Jean chapitre 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde. » Et ce matin, on va découvrir ensemble en quoi Jésus est la lumière du monde. Un monde, comme vous le savez, qui en ce moment même est en pleine préparation à la célébration de la mort, de l'obscurité et des ténèbres. Mais Jésus ne s'offre pas comme une alternative. Il est le seul chemin. Nous allons voir que Jésus révèle qu'il est lui-même cette lumière. Et en se révélant comme tel, il révèle aussi qu'il est Dieu. Et nous avons besoin de la lumière que Christ est. Oui, il est la lumière. Il n'est pas n'importe quelle lumière. Elle est celle qui nous permet de tout voir, même dans les recoins les plus sombres de nos vies. Et enfin, cette lumière, il l'apporte au monde. Il te l'apporte à toi. Et c'est un appel à accepter son offre pour toi. Dans notre texte, nous sommes à la fin de la fête des cabanes et l'évangéliste Jean nous dit « Jésus parla de nouveau en public ». Et cela signifie que nous sommes toujours dans le cadre de cette célébration. Vous savez, cette fête qu'on appelle Soukhot aussi, commémorait l'errance d'Israël dans le désert. Et pendant Soukhot, on dormait dehors, dans des cabanes de fortune. Et c'était le souvenir d'un peuple nomade qui devait constamment monter et démonter leurs tentes et qui était dépendant de Dieu pour tout. Et chaque soir à Jérusalem, à l'époque de Jésus, le temple s'illuminait. On voyait d'immenses chandeliers qui brillaient pour rappeler la colonne de feu et de nuée lorsque le peuple de Dieu se trouvait en errance dans le désert. Un récit qui nous est raconté dans Exode. Cette lumière, c'était Dieu lui-même, celui qui guide, celui qui protège, celui qui reste au milieu de son peuple. Mais ces illuminations, à Soukhot, elles sont aussi en attente du Messie, du Sauveur, du libérateur d'Israël. Et c'est dans ce contexte que Jésus se lève et dit « Je suis la lumière du monde ». Ce périple dans le désert, vous me direz que c'était il y a très longtemps. Et aujourd'hui, heureusement, on habite dans des logements en pierre. Et nous sommes passés de nomades à sédentaires. Et certains sont même casaniers. Et puis, grâce à Edison, nous avons désormais la lumière partout. Alors pourquoi ? Pourquoi avoir besoin de lumière ? J'ai quitté définitivement mon travail en septembre pour démarrer mes études en théologie à plein temps. Et peu avant mon départ, j'ai eu une petite discussion avec ma supérieure hiérarchique. Et elle était plutôt surprise de ma décision, mais d'un autre côté, elle comprenait et encourageait aussi ma démarche. Elle a même admis que le monde ne tournait plus rond et qu'il avait besoin d'un cadre. Un cadre que seuls les chrétiens pouvaient donner. Mais c'est en fait, c'est plus que d'un cadre dont le monde a besoin. Il a besoin de la lumière. C'est vrai, nous ne sommes pas dans un désert. En revanche, nous sommes toujours en errance et nous avons également besoin d'un guide. Le monde s'égare. Il cherche toujours plus de confort, plus de plaisir, plus de reconnaissance. Mais plus il cherche, plus il s'éloigne de Dieu. Le monde n'a jamais été aussi illuminé. Et pourtant, il marche toujours dans le noir. C'est un monde qui vit sans Dieu, qui décide sans Dieu, qui s'enfonce peu à peu dans le désespoir. Pourtant, dans Actes chapitre 17, l'apôtre Paul va découvrir dans Athènes une ville pleine de statues, jusqu'à un hôtel dédié au Dieu inconnu. Et cette scène nous révèle une chose, c'est qu'en fait, au fond de chaque être humain, il y a une recherche du Dieu véritable. Mais sans la vraie lumière, on reste dans l'ombre. Sans le savoir, tout être humain est à la recherche de Dieu. Quand nous sommes dans le désespoir, nous cherchons souvent la moindre étincelle d'espoir. Certains essayent de fuir leur souffrance par le plaisir, dans l'alcool, les drogues, la sexualité débridée ou encore la course à l'argent. Et dans notre société, beaucoup pensent que le bonheur se trouve ici, dans l'argent. Aux États-Unis, par exemple, j'ai lu une étude qui montre que les jeunes adultes estiment qu'il faut gagner plus de 500 000 dollars par an pour être juste bien. Ils ont comme objectif de vie d'être millionnaire. Et en France, même si le discours est un peu différent, la quête reste la même. On cherche le bonheur, le sens, la lumière, mais souvent sans Dieu. Certains la cherchent dans la réussite, d'autres dans les relations, d'autres encore dans la spiritualité, dans les pratiques mystiques, dans les coachs spirituels, les cristaux. Tout cela promet une lumière, mais en fait, ça ne fait qu'entretenir une illusion. Par exemple, le mouvement du Nouvel Âge, un mélange de bouddhisme, méditation, croyances occultes. Le Nouvel Âge enseigne qu'en élevant notre conscience, on peut trouver le Dieu en soi. Clairement, ici, nous sommes face à des pratiques centrées sur nous-mêmes et qui nous rappellent les paroles du serpent dans la Genèse. Et vous serez comme des dieux. Aucune de ces personnes ne savent où elles vont. Elles sont moralement et spirituellement perdues et sans direction. Bien qu'elles marchent encore dans les ténèbres, elles aiment y être. Elles aiment y rester. Elles aiment les ténèbres. Et elles y sont tellement habituées qu'elles s'y sentent bien. Et le plus grand mensonge du diable, vous savez quoi ? Ce n'est pas de dire que Dieu n'existe pas, mais c'est de te faire croire que tu n'as pas besoin de lui. Et ce qui est frappant, c'est que même ceux qui avaient reçu les signes, la loi, les prophéties de Dieu, tout cela était perdu aussi. Les pharisiens connaissaient les Écritures. Ils étaient censés guider le peuple, défendre la loi. Mais ils vivaient eux aussi dans les ténèbres. Ceux-là même qui suivaient Jésus pas à pas, non pas pour le suivre, mais pour le piéger. Voyez la lumière là se tenir devant eux, me refusait de la recevoir. Et nous ? Où en sommes-nous ? Est-ce que nous n'avons pas aussi nos propres lampes de poche pour nous éclairer dans ce monde ? Est-ce qu'on n'utilise pas aussi des artifices illusoires pour combler ce vide obscur dans nos vies ? Peut-être même que nous nous réfugions dans la théologie, dans la connaissance de Dieu, mais sans que cela nous transforme réellement dans notre relation avec Dieu. une recherche impossible de Dieu, pour comprendre qui il est, au lieu de chercher une relation avec celui qui est. La lumière est l'un des thèmes principaux de l'évangile de Jean. Ce terme apparaît dès les premiers versets du livre pour attribuer cette caractéristique propre à Jésus. Mais dans l'Ancien Testament, la lumière représente aussi le salut, la présence et la direction de Dieu. Dans Ésaïe 42, versets 6 à 7, « Moi, l'Éternel, moi, je t'ai appelé dans un juste dessein et je te tiendrai par la main. Je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des peuples étrangers, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d'arrêt ceux qui habitent les ténèbres. » Ésaïe 42 utilise la lumière pour caractériser le serviteur d'Israël, celui qui est donné aux nations pour leur bénédiction. Et ce serviteur, c'est la véritable direction pour le peuple, la source de bénédiction pour le monde, mais il est également la seule source de salut. Et Jésus est ce serviteur d'Israël que l'on retrouve ici dans Ésaïe 42. Il est celui qui est véritablement la lumière du monde. Peut-être que vous êtes des chrétiens de longue date, et lorsque vous entendez ce fameux « je suis », vous en avez des frissons et vous pensez tout de suite à comment Dieu s'est présenté à Moïse avec ce « je suis ». Pour les Juifs, lorsque Jésus fait cette déclaration « je suis la lumière », bizarrement, ça ne leur fait pas hérisser les cheveux sur la tête, en tout cas pas au point de le traiter de blasphémateur. Dans d'autres circonstances, les pharisiens vont réagir différemment, comme à la fin du chapitre 8, lorsque Jésus déclare « avant qu'Abraham fût, je suis. » Là, nous sommes dans la présence d'un « je suis » bien clair, bien franc, un « je suis » tel que Dieu se présente. Et nous le voyons aussi dans la réaction des pharisiens qui vont ramasser des pierres pour les jeter à Jésus. Mais dans notre texte de ce matin, pour les pharisiens en tout cas, Jésus se présente éventuellement comme étant le Messie, peut-être, celui-là même qui était attendu par la célébration de la fête des cabanes. Un Messie, le libérateur d'Israël, de la lignée du roi de David, mais sûrement pas le Fils de Dieu. Pourtant, Jésus donne des signes de sa divinité. Petit à petit, il se révèle à chacun qu'il est le Fils du Dieu vivant. Et vous l'avez vu la semaine dernière, Jésus a déclaré qu'il était le pain, mais ne dit pas clairement qu'il est le Fils de Dieu. Il s'associe à l'action de Dieu dans le miracle de la manne. Si Dieu a donné le pain qui vient du ciel, à plus forte raison, Jésus donne de cette manne, une manne qui va bien au-delà de la nourriture physique. Il est le pain qui donne la vie. Et c'est ce qu'il fait ici dans notre texte. Sans le dire clairement, il révèle petit à petit son identité. Il révèle qu'il est Dieu. Ici, Jésus déclare simplement être la colonne de feu qui a conduit Israël à travers le désert. Il est celui par qui Israël a remporté la victoire. Lorsque vous êtes devant une ruelle sombre, quel est votre premier réflexe? En général, vous sortez votre téléphone et vous utilisez le flash. Et on voit bien que ce n'est pas suffisant. Au contraire, c'est même pire. Cette lumière que vous apportez crée de nouvelles ombres, de nouvelles craintes. Cette lumière ne révèle pas suffisamment ce qui se trouve sur le chemin. Et ce que vous voudriez à ce moment précis, c'est une lumière éclatante. Une lumière qui éclaire absolument tout, tellement qu'elle ne laisse aucune ombre. Et Jésus ne dit pas qu'il est une lumière parmi tant d'autres. Ce que Jésus est dépasse tout ce que les philosophies, les religions, les courants de pensée peuvent enseigner. Il ne se présente pas non plus comme étant éventuellement celui qui peut apporter une lumière. Il ne dit pas qu'il est un représentant d'une lumière ou même qu'il est simplement un envoyé de Dieu ou un messager, un porteur de flamme. Il n'est pas un simple sage, un prophète ou un maître spirituel parmi tant d'autres. Il est la lumière, la colonne de feu, la gloire de Dieu. Il est le Fils de Dieu, la véritable révélation du Père. La parole faite chair, la justice de Dieu vivante parmi nous. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, nous voyons bien qu'il y a ce lien entre la lumière, la vie, la parole et Dieu. Alors la parole est Dieu, elle était au commencement avec Dieu, pas au commencement dans le sens de la création, comme on peut le voir, les arbres et tout ça, nous-mêmes, mais au commencement, dans un espace-temps qui n'a pas de début, de toute éternité. Il était déjà là. En la parole aussi réside la vie, et cette vie est la lumière des hommes. Et nous pouvons sensiblement faire un parallèle direct avec Genèse chapitre 1, verset 3. Que la lumière soit. Quand cette lumière vient, appelée par Dieu, on peut dire que c'est comme pour ceux qui aiment dormir dans l'obscurité la plus totale, volets fermés. Vous vous réveillez le matin et tant bien que mal, vous trouvez cet interrupteur qui semble avoir bougé durant la nuit. Et là, un flash de lumière qui éclaire absolument tout. Tout est illuminé. Tout d'un coup, vous êtes conscient, vous êtes réveillé. Rien ne reste dans l'ombre. Mais ici, en fait, on ne parle pas de la lumière du soleil. C'est bien plus que ça. Parce que le soleil apparaît bien plus tard, au quatrième jour avec les étoiles. On parle ici de la lumière primordiale. Une lumière qui ordonne le monde. Une lumière qui donne la vie. Cette lumière qui a créé absolument toute chose. Et c'est aussi cette lumière qui crée également l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, avec cette lumière, portaient en eux la vie, avant d'être obscurcis par le péché et d'être séparés de Dieu. Et à la lumière du Nouveau Testament, c'est le cas de le dire, on comprend que Jésus est la parole créatrice, la lumière qui donne la vie à l'ancienne et à la nouvelle création. Et cela nous dit que le monde a été créé par cette lumière, et que cette lumière est bonne, et que cette lumière est censée être dans notre cœur. Mais notre cœur s'est rempli du péché pour n'être que ténèbres au lieu d'être lumière. Il n'y a que Jésus qui est la lumière qui peut nous restaurer. Il n'y a que cette lumière qui chasse toutes les ombres de notre cœur. C'est la seule lumière qui ne cache pas d'autre chose ou qui crée de nouvelles ombres. Cette lumière éclaire absolument tout. Elle rétablit toute chose. La lumière de Jésus ne change pas les ténèbres. Elle les fait fuir. Voici la suite de notre verset de ce matin. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Ici, Jésus nous certifie une chose. C'est simple. Si on ne marche jamais dans les ténèbres, alors, il y a cette certitude, nous aurons la lumière de la vie. Est-ce que vous avez déjà pris une assurance voyage ? Tout paraît simple au début, jusqu'à ce qu'on lise les petites lignes, des clauses, des conditions, des astérix, ça n'est plus en finir. Et à la fin qu'on a signé, on a toujours ce doute. Je suis vraiment couvert là. Mais ce que Jésus nous promet n'a pas de clause en petit caractère. Sa promesse, elle est véritable, elle est indéfectible. Indéfectible. J'aime ce mot. Lorsque je pense à Jésus, c'est le premier mot que j'ai en tête, indéfectible. Parce qu'en fait, il signifie que Jésus ne peut pas défaillir. Jésus est solide et sûr. Il ne peut cesser d'être. Il est une promesse éternelle pour nous. Il nous promet la lumière, cette lumière qui donne la vie. Et il y a une garantie indéfectible à ça. Et on ne parle pas que de la vie terrestre éphémère. Quand Jésus parle de la lumière qui donne la vie, il ne promet pas que nous allons échapper à la mort. Rassurez-vous, ou je ne sais pas, mais tout le monde va mourir. Il n'y a pas de vie bonus. Il est impossible d'échapper à la mort terrestre, sauf si Jésus revient avant, bien sûr. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est dit qu'il est donné à chacun de mourir une seule fois. Et après quoi, vient le jugement. Et lors de ce jugement, que verra Dieu ? Dans ton cœur, qu'est-ce qui sera visible ? la lumière de Jésus ou cette obscurité, ces ténèbres? Si c'est la lumière de Jésus, alors tu es sauvé et tu seras pour toujours dans la présence éternelle de Dieu. Mais si tu restes dans les ténèbres, tu seras séparé éternellement de sa présence. C'est une seconde mort. Viens à lui. Ne cherche plus la lumière ailleurs. Ce que tu cherches depuis toujours, c'est Jésus. Et cette lumière, Jésus l'offre à tous, sans exception. Si on en revient un peu à la fête de Soukhot, il y a plusieurs signes qui vont dans ce sens, que la lumière est pour tous. Cette fête, qui est décrite dans Lévitique chapitre 23, était pour Israël uniquement, comme toutes les ordonnances qui sont transmises par l'intermédiaire de Moïse. Le but était qu'Israël devienne un peuple d'adorateurs de Dieu, un peuple différent des autres peuples, une lumière pour les nations. Et nous avons quelques indices qui nous font comprendre que la portée des fêtes s'élargit petit à petit aux autres nations. Par exemple, si on prend Nombre 29, on nous apprend qu'il faut 70 taureaux pour être sacrifiés durant cette fête. Et les rabbins ont vu les 70 nations du monde, mentionnées dans Genèse chapitre 10. Soukhot, en fait, était, dans la pratique, pour les Juifs, une fête où Israël intercédait pour les nations. Un autre indice un peu plus biblique cette fois se trouve dans Zacharie chapitre 14. Et en fait, c'est une prophétie, on ne peut plus clair. Toutes les nations étrangères, autrefois ennemies du peuple d'Israël, viendront fêter Soukhot et se prosterner à Dieu. Vous vous rendez compte? Même l'Égypte. L'Égypte, la pire des nations ennemies pour Israël. Dieu invite tous les peuples à se repentir et à se prosterner à lui, même les plus grands ennemis de son peuple. Et c'est pas fini. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Nous avons ici une vision prophétique. Des gens de toute tribu qui tiennent à la main des branches de palmier et qui nous rappellent Soukhot. Et ils étaient vêtus de tuniques blanches, signifiant la purification par le Christ, mais aussi la sainteté qui leur permet de se présenter devant Dieu. Impossible ici de ne pas voir l'offre universelle du salut en Jésus-Christ. Jésus est la lumière du monde, pas seulement d'un peuple, mais de toutes les nations. Et pour recevoir sa lumière, Jésus nous invite tout simplement à le suivre, à prendre un nouveau départ avec lui, un départ qui change tout. Quand il dit « suis-moi », c'est un appel clair, un appel personnel et puissant pour toi. Il te dit « suis-moi » et tu ne marcheras plus jamais dans les ténèbres. Les pharisiens, eux, n'ont pas compris cet appel. Ils étaient restés bloqués sur la déclaration de Jésus. Ils la jugeaient inconcevable. Ils croyaient aussi voir clair. Mais ils étaient aveuglés, en fait, par leur propre certitude. Et parfois, nous aussi, nous pensons n'avoir besoin de personne, ni même de Dieu. Mais on ne peut pas recevoir la lumière si on ne suit pas Christ. Et sans cette lumière, on reste dans les ténèbres. Suivre Jésus est aussi une action continue, une marche de tous les jours. Ce n'est pas un geste ponctuel ou une émotion passagère, mais c'est un chemin de fidélité, une relation vivante qui grandit de jour en jour. Le suivre, c'est croire en lui, écouter en sa parole, lui obéir chaque jour. C'est marcher dans sa lumière continuellement, en laissant sa présence guider chacun de nos pas. Il s'agit ici de lui confier la totalité de notre vie, pas juste une partie ou des miettes de pain. Car celui qui t'a racheté en s'offrant totalement sur la croix veut te transformer totalement. Pour ceux qui ont déjà reçu sa lumière, c'est vrai qu'on peut encore traverser des ténèbres dans nos vies. Être chrétien ne veut pas dire qu'il n'y a plus de tempête. Et parfois, on a même l'impression que notre barque va chavirer, que les vents et les vagues vont nous engloutir. Mais la différence, c'est que nous avons la lumière de Jésus, la lumière qui nous protège, qui nous guide vers la sortie. Et surtout, nous avons cette assurance que les ténèbres ne vont jamais nous engloutir. Et c'est exactement comme quand Dieu se manifestait par cette colonne de nuée, cette colonne de feu. Jésus, qui est la lumière du monde, est le guide sûr qui nous conduit en toute sécurité à travers le désert de ce monde. Et ceux qui le suivent n'auront jamais à craindre de cheminer dans l'obscurité, quelles que soient les circonstances, et cela jusqu'au bout de leur cheminement terrestre. Jésus-Christ est la seule source de vie spirituelle dans un monde rempli du péché. Lorsque nous faisons confiance en Jésus, il y a un changement permanent qui s'opère en nous, un changement qui œuvre en nous. Nous sommes directement bénéficiaires de ce changement. Mais ceux qui nous entourent sont aussi, en quelque sorte, bénéficiaires de ce changement qui est en nous. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 8, « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant, nous qui le suivons, nous sommes lumière dans le Seigneur, parce que nous appartenons à sa lumière. Et parce que nous sommes lumière, nous sommes appelés à vivre comme des enfants de lumière dans ce monde de ténèbres. Et il ne s'agit pas de témoigner aux autres de ce que nous sommes, mais de témoigner de ce que Jésus fait en nous. Nous ne sommes pas nous-mêmes la lumière du monde. Ce n'est pas notre propre éclat que nous portons. Si nous essayons d'éclairer le monde avec notre propre lumière, alors ce n'est plus celle de Jésus. Notre témoignage n'est plus celui de Christ. Mais celui qui suit Jésus ne marche plus dans les ténèbres, il marche dans la lumière de Jésus. Et concrètement, c'est vivre dans le monde sans être du monde, en renouvelant constamment nos pensées pour discerner la volonté de Dieu. Nous devons aussi vivre comme leitmotiv ce commandement d'aimer notre prochain comme soi-même et briller de notre amour en toute occasion, que ce soit en parole ou en acte. Et ça, c'est possible. Parce que lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, alors le Saint-Esprit opère en nous ce changement. Et en tant qu'enfant de lumière, ce sont aussi les paroles de Jésus que nous transmettons, des paroles remplies de vie. Nous sommes appelés à transmettre de l'espoir par les paroles que l'Esprit nous permet de prononcer et aussi par les prières que nous faisons. Nous devenons une lumière pour les nations, à propager la bonne nouvelle partout où nous nous trouvons, en tissant des liens entre l'Église locale qui est ici et les perdus du dehors. Marcher dans la lumière, c'est vivre différemment. C'est pardonner quand c'est difficile. C'est aimer quand le monde nous haït. C'est choisir la vérité quand c'est plus facile de mentir. Notre rôle n'est pas d'être glorifié, mais c'est que Dieu le soit. Oui, Jésus est la vraie lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors aujourd'hui, on n'allume plus de grands candélabres sur le parvis du temple de Jérusalem. Normal, le temple est détruit. Ce temple était le lieu d'habitation de Dieu, un lieu de rencontre avec lui. Mais aujourd'hui, pour ceux qui suivent Jésus, le temple, c'est nous. Et le parvis de Dieu, c'est nos cœurs. C'est notre cœur qui brûle pour lui. Aujourd'hui, les Juifs messianiques, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, allument encore des lumières à Soukhot. Non plus pour attendre le Messie, mais pour célébrer celui qui est déjà venu. Oui, le Messie est déjà venu par le Fils. Et c'est par lui uniquement que nous pouvons avoir la lumière de la vie. Ce vide qui est dans ton cœur, cette obscurité qui est en toi, seul Jésus peut la combler, car il est Dieu. Mais malheureusement, le péché est là, et nous éloigne loin de sa lumière pour nous plonger dans les ténèbres. Mais en chacun de nous, nous avons cette soif de Dieu. Et c'est comme si le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu crée une sorte de lien immuable qui nous attire constamment à lui. Mais bien parfois, nous n'osons pas nous l'avouer, parfois nous le nions, parfois nous nions aussi l'amour qu'il met dans notre cœur. D'autres fois, il nous arrive même parfois de, de détourner la tête pour esquiver sa lumière. Et lorsque nous acceptons sa lumière, je dois vous dire, c'est un peu comme lorsque on change de lunettes. Ceux qui n'ont pas de lunettes ne peuvent pas comprendre. Mais vous voyez, moi, je suis hyper myope. Et la pire des craintes que j'ai, c'est lorsque je change de lunettes, parce qu'il y a un changement de correction. Au début, c'est un peu flou, et parfois on a même envie de vomir. Et au bout d'un moment, ça devient clair petit à petit, et au final, tout devient clair. Recevoir la lumière de Jésus ne donne pas envie de vomir, et parfois, peut-être, oui, peut-être, parce que qu'on se le dise, vous ne vous sentirez pas si bien que ça au début. Le changement peut être difficile, la transition peut être douloureuse. Jésus nous invite à changer de perspective, il nous invite à changer de comportement, de vie, de façon radicale, en regardant avec sa lumière. Mais c'est difficile de se défaire de quelque chose que nous aimons, qui nous rassure, même si nous savons pertinemment que cela nous empêche de suivre Jésus complètement. Mais peu à peu, marcher dans la lumière procure la vie et la joie. Elle est vivifiante, elle est joyeuse. Et Jésus se révèle comme une lumière pour nous attirer à lui, pour nous assurer que sa vérité et sa sainteté sont remplies de vie, de joie et d'espérance. Cette déclaration, « Je suis la lumière du monde », Jésus va la redire une seconde fois un peu plus tard, alors que personne n'avait compris qui il était. Et cette fois-ci, il va le dire à un aveugle physique. Je suis la lumière du monde. On peut voir dans d'autres récits que Jésus utilise un peu la même pédagogie, comme par exemple avec l'histoire du paralytique. Voici ce qu'il dit à peu près. Vous ne croyez pas que je peux pardonner les péchés ? Eh bien, pour vous montrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je guéris ce paralytique. Et avec l'aveugle, vous ne croyez pas que je suis la lumière du monde ? Eh bien, pour vous montrer que je suis celui qui redonne la vue à ceux qui sont spirituellement aveugles, je guéris cet aveugle. Peut-être que toi aussi, tu es comme cet aveugle, tu entends parler de Jésus, tu connais sa parole, mais tu n'as pas encore ouvert les yeux. Tu traverses la nuit, tu cherches la lumière sans la trouver. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, « Je suis la lumière du monde. » Jésus éclaire nos ténèbres. Il est celui qui révèle Dieu et il donne la vie à ceux qui le suivent. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, merci pour cette parole que tu as mise dans notre cœur, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es la lumière, tu es celui qui était là avant toute chose. Tu es celui qui était déjà là avec Dieu au commencement de toute chose. Merci Seigneur parce que tu as tout prévu d'avance pour nous. Oui, c'est vrai que le péché est venu, qui a obscurci notre cœur, Seigneur. Mais toi, tu as établi ton Fils pour qu'il vienne ici sur terre, pour nous connaître, pour venir à notre rencontre, comme toi tu le souhaites. Seigneur, merci parce que, oui, cette rencontre, Seigneur, elle s'est terminée sur la mort à la croix. Cette mort qui a pris nos péchés, Seigneur. Et Seigneur, pour ceux qui acceptent de te suivre, tu nous promets que nous aurons la vie, comme toi, tu as eu la vie en ressuscitant. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous guide, qui nous protège à chaque instant de notre vie. Tu es celui qui nous restaure. Peut-être que ce matin, Seigneur, nous avons parmi nous des personnes qui n'ont pas encore fait ce pas, Seigneur, pour venir à toi, qui ont encore ce cœur obscurci de ténèbres. Appelle-le à toi, Seigneur. Appelle-le à venir à toi, qu'il réponde à ton appel et qu'il reçoive ta lumière, Seigneur. Et Seigneur, pour ceux qui sont déjà chrétiens, pour ceux qui te suivent déjà dans la vie de tous les jours, oui, Seigneur, je te prie vraiment que nous puissions continuer chaque jour à marcher dans la lumière, Seigneur, que tu traces sur notre chemin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous guides, Seigneur, et que tu nous protèges. Seigneur, merci parce que, oui, ce monde est plein d'embûches, Mais nous savons que toi, tu es là. Tu es solide et sûr. Tu es indéfectible. Et tu nous promets la vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.